À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « L'aventure spirituelle », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
On ne peut pas explorer la vie spirituelle sans parler de la prière. La vie spirituelle, on le sait, est un aspect de ma vie tout court, un aspect de ma vie qui concerne ma relation à Dieu. On est à la vie spirituelle comme on est à la vie physique, à la vie affective, à la vie intellectuelle. La vie spirituelle a besoin d'être nourrie. La vie spirituelle est une entrée en relation avec Dieu qui se développe avec le temps, à travers des étapes obligées, relations qui passent par des crises. La vie spirituelle, on le sait aussi, n'est pas une question de théorie, d'idées, d'idéologie. Mais c'est vraiment la découverte d'une relation interpersonnelle à tisser comme on tisse des amitiés entre moi et le Seigneur, entre moi et Jésus-Christ ressuscité, vivant, présent, agissant, transformant, divinisant. Comme le disait Jacques Leclerc, aimer, c'est partir pour toute une vie à la recherche d'un visage, à la recherche d'un amour. Voilà qui décrit très bien l'aventure de la vie spirituelle. Elle est cette recherche amoureuse. Et cette recherche amoureuse porte un nom, c'est la prière. Trop souvent, on réduit la prière aux prières au pluriel, à l'oraison que l'on fait dans des temps et dans des lieux réservés, le matin ou le dimanche à la messe, dans son coin de prière ou à l'église. La prière dont je veux parler déborde ces temps et ces lieux. À l'invitation du Seigneur, nous sommes invités à prier toujours et partout. Il y a beaucoup de manières de définir ou de décrire la prière. Il existe des monceaux, des tonnes de livres sur la prière, et chacun y va de sa définition. Remarquez que le fait que chacun ait sa définition de la prière n'est pas nécessairement péjoratif. Ça veut dire que la prière, c'est une réalité riche et complexe et on peut l'aborder de diverses façons. Il existe une image utilisée par beaucoup d'auteurs spirituels qui est vraiment éclairante sur la prière et ça tombe bien, c'est l'image du poste de radio. Vous êtes en train d'écouter la radio pendant que je vous parle. C'est une belle image. La prière consisterait à syntoniser Dieu, à se placer sur une longueur d'onde particulière où on pourrait communiquer avec Dieu. C'est s'enligner sur Dieu. Voilà qui décrit un peu l'activité. On pourrait appeler la priante, l'activité de la prière. Communiquer pour communier. L'image est intéressante, elle fait comprendre beaucoup de choses. D'abord qu'il y a parfois beaucoup de difficultés à communiquer. Et ces difficultés ne viennent pas souvent et toujours de celui qui émet, l'émetteur, mais plutôt de celui qui accueille, qui reçoit l'émission. Par exemple, c'est peut-être notre appareil de radio qui n'est pas assez évolué ou qui n'est pas assez ajusté et qui fait interférence, si on peut dire, à l'émission. ou les interférences peuvent venir de l'extérieur. Vous avez dû faire l'expérience quand on a un poste de radio là, pas tellement évolué. Comment le soir en particulier, à cause des phénomènes d'électromagnétiques, des phénomènes atmosphériques, hein, et les postes, les autres postes entrent. Il y a une sorte de compétition entre les postes. Les ondes sont chargées. Il y a du grésil, comme on dit, du popcorn, il y a tout ce que vous voulez, là, ça griche. Vraiment, on a de la difficulté à syntoniser le poste qu'on veut syntoniser. Les interférences peuvent venir de l'appareil qu'on possède. C'est sûr que si on a acheté un petit poste de radio là, à 9,55 $, je nommerai pas le magasin, c'est très différent que d'un gros système de son. Si on a acheté un gros système de son à 2,342,25 $, vous avez pu faire l'expérience. L'émission est semblable. Si vous écoutez de la musique de Radio Galilée, c'est une très belle musique, avec votre petit appareil, c'est pas sûr que ça donne la même chose que si vous l'écoutez avec un gros appareil, un gros système de son. Alors, la question, quand on parle de prière, c'est de vérifier l'état de son appareil, la qualité de son appareil, et pas mettre sur le dos du bon Dieu ce qui relève de la qualité de notre écoute. Il est mauvais signe d'avoir besoin de beaucoup de temps pour s'enligner sur le Seigneur. Tout comme il est mauvais signe si vous avez besoin de 15 minutes pour trouver exactement la bonne longueur d'onde pour écouter Radio Galilée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Votre appareil est trop petit. Il n'est pas assez grand, il n'est pas assez fort. Changer d'appareil. Si on prend beaucoup de temps pour s'enligner sur le Seigneur, c'est le signe qu'il y a des interférences. Et remarquez, là, traduisez, les interférences dans notre qualité d'écoute, ça peut être qu'on est occupé ailleurs, qu'on a des, comme on dit d'une manière classique, des affections déréglées. On a des problèmes. Vous le savez, quand on a des problèmes, on a de la difficulté à écouter les autres. Alors, quand on a des problèmes, étonnez-vous pas que vous ayez de la difficulté d'écouter le Seigneur. Ce sont des interférences. Il y a d'autres postes qui sollicitent notre attention quand on essaie d'entendre et d'écouter le Seigneur. Prenez des exemples concrets. Si vous êtes en chicane contre quelqu'un, hein, si vous êtes en bataille contre quelqu'un, essayez pas de communiquer avec Dieu. Vous êtes en bataille contre lui. Hein, c'est à moi que vous le faites. La charité fraternelle est la condition, si on peut dire, là, de notre ouverture vers Dieu. Saint Ignace disait que quelqu'un qui prend trop de temps à se mettre en prière, ça veut dire qu'il n'est pas mortifié, qu'il est habité de toutes sortes de choses, et qu'il s'agirait de nettoyer, si on peut dire, là, sa qualité d'écoute, ses oreilles, pour pouvoir entendre ce que Dieu veut lui dire. Un homme mortifié aurait besoin de 15 minutes d'oraison chaque jour. Ça suffirait pour faire que la musique puisse entrer dans sa vie. Hein? N'empêchez pas la musique. L'important, une fois qu'on est enligné sur le Seigneur, pour poursuivre la belle comparaison de radio, c'est de laisser la musique jouer toute la journée. Laisser le poste ouvert toute la journée. Il y a des femmes qui font ça. Ils se lèvent le matin, ouvrent la radio et ils la ferment le soir. Il faut faire la même chose avec le Seigneur. Laisser la radio ouverte toute la journée. Thank you. invitant à ouvrir votre poste de radio et à laisser la musique envahir votre vie, à laisser la parole de Dieu vous rejoindre dans toute votre vie, à laisser la communication s'établir avec le bon Dieu dans toute votre vie. Ce que j'essaie de dire, c'est que le temps formel, le temps précis que vous vous donnez pour prier, que ce soit le matin, que ce soit à l'Eucharistie, que ce soit le dimanche, ce temps formel est ordonné à vous établir dans un état de communication et de communion avec le Seigneur. C'est pas la fin des choses, ça. Si vous faites oraison le matin ou le soir ou n'importe quand, vous faites une demi-heure, un quart d'heure, le temps que vous mettez à faire oraison, dites-vous pas que tout est fini, tout commence. Ce temps précis a comme fonction de vous établir dans un état de contemplation. Prenez un autre exemple pour dire ça, dans la mesure où il s'agit de communiquer pour communier avec quelqu'un. Prenez l'exemple des amoureux, qui aiment bien ça, se rencontrer en fin de semaine, le vendredi soir. Et comme disait Ticoc, là, d'être proche, 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 là, de se mordre les oreilles jusqu'à la troisième génération. Les amoureux, c'est bien sûr que c'est intéressant de se rencontrer, d'avoir des temps spéciaux pour se rencontrer, mais en dehors de ces temps-là, ils sont toujours amoureux. Et les temps qu'ils prennent pour la rencontre, ces temps-là ont comme fonction de les établir plus profondément dans leur relation amoureuse et d'établir cette relation-là d'une manière permanente. Ils sont toujours amoureux. De telle sorte que il faut être contemplatif tout le temps. C'est ça que le Seigneur nous dit quand il nous invite à prier tout le temps. C'est pas toujours faire oraison, mais d'être toujours en communication et en communion avec le Seigneur dans toutes ses activités. Que ce soit l'activité de faire oraison, que ce soit l'activité de manger, de dormir, de se reposer, de travailler, je suis toujours en communication et en communion avec le Seigneur. C'est le même bon Dieu que je découvre quand je prie et quand je travaille. Je collabore avec le même Seigneur. C'est un mauvais signe quand il y a une sorte d'opposition entre ma contemplation et mon action. Ça, il y a quelque chose qui marche pas là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à vérifier son appareil, vérifier sa prière, faire du discernement là-dessus, parce qu'on peut se faire jouer de mauvais tours. On peut être dans l'illusion en priant. C'est saint Ignace qui a affirmé quelque chose qui est terrible. Quand j'ai lu ça pour la première fois, c'est comme si je recevais un coup de poing en plein visage. C'est le secrétaire de saint Ignace qui note dans ses mémoires, « J'ai entendu souvent dire par Ignace que sur 100 personnes grandement adonnées à la prière, il y en a 90 qui sont dans l'illusion. » C'est terrible. 90% des gens grandement adonnés dans la prière seraient dans l'illusion. Et le secrétaire de Saint-Ignace ajoute, je suis sûr qu'Ignace disait ça. Puis pas au début de sa vie, là, à la fin de sa vie. C'était pas un débutant qui disait ça, là, mais c'était un connaisseur. Je suis sûr qu'Ignace disait ça. Que sur 100 personnes grandement adonnées à la prière, qui ont besoin de beaucoup de temps, il y en a 90 qui sont dans l'illusion. Ce dont je suis pas sûr, c'est s'il disait pas 99 de ces 100 personnes-là qui sont dans l'illusion. Autrement dit, l'illusion nous guette dans la prière, et c'est pour ça qu'Ignace nous invite à faire du discernement partout dans notre vie, mais en particulier sur cette activité qu'on appelle la prière. Savoir qu'est-ce qu'on fait quand on prie. Vérifier qu'est-ce que je fais quand je prie, pourquoi je prie. C'est vérifier mes motivations profondes. Si je prie, par exemple, pour me mettre en règle avec Dieu, si je prie pour me protéger de Dieu, si je prie pas, je vais être malheureux, ou le Seigneur va m'en vouloir, je sais pas si vous voyez que ça fait le contraire de la prière. Au lieu de nous amener à communiquer et à communier avec le Seigneur, ça nous barde. Ça nous fait une sorte de mur autour de nous. Je me rang, en règle avec le Seigneur. Et c'est de l'illusion. Avec une bonne chose qu'on appelle la prière, je suis en train de me couper de Dieu à travers ma prière. Ou encore, vérifier qui est-ce que je prie. Je peux me tromper sur le destinataire de mes prières. C'est le théologien Urs von Balthasar qui disait ça. Si jamais vous vivez des tensions entre votre prière et votre action, vérifiez quel Dieu vous priez. On peut prier un Dieu platonicien. Vous savez comment Platon concevait Dieu. Dieu existait dans le monde des idées. Et pour découvrir ce Dieu-là, il fallait quitter notre monde matériel qui était comme une prison. Pour Platon, le monde, c'est une prison. Et notre corps, c'est un tombeau. C'est pas gentil. Ça, c'est absolument pas chrétien. Le Dieu des chrétiens ne vit pas dans un monde ailleurs, dans le monde des idées. Et notre monde n'est pas une prison puis un tombeau. C'est l'inverse. Dieu s'est invité dans notre monde. Il habite notre monde par l'incarnation. Et le monde et notre corps sont les temples de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez toute la différence de conception. Nos images de Dieu sont très différentes selon qu'on a un Dieu qui est en dehors de ce monde. Et remarquez qu'on a des cantiques qui reflétaient un peu cette conception quand on disait là, quitter cette vallée de larmes puis aller au ciel, comme si le ciel c'était un ailleurs. Le ciel, c'est pas un ailleurs. C'est un état. C'est d'être avec le Seigneur. Alors, le Seigneur est entré dans notre monde, il n'en est jamais sorti. Le ciel peut commencer aujourd'hui, dans la mesure où je rencontre le vivant, le ressuscité, dans mon quotidien. Importance de vérifier son appareil, savoir pourquoi je prie, savoir qui est-ce que je prie, savoir aussi qu'est-ce que ça donne ma prière. Si ma prière me coupe des autres, si ma prière m'isole, dites-vous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma prière. Il faut faire éclater la conception étroite de la prière, là où on identifierait uniquement la prière à l'oraison. On peut concevoir toute notre vie comme une sorte de dialogue qui s'instaure peu à peu entre moi et le Seigneur. Avec tous les aléas, toutes les difficultés, toutes les avancées, tous les retraits que ça peut impliquer. Notre vie est comme une immense prière, une immense aventure d'amitié. Une amitié qui se forge petit à petit. C'est très intéressant de concevoir la prière de cette façon. Très large. Pas juste mon oraison. Pas juste prier partout et toujours. Mais voir que ma prière, c'est l'histoire de ma vie dans sa relation avec Dieu. Une aventure d'amitié qui se développe lentement, qui a des coups de cœur. Ça se développe comme se développent nos amitiés, avec de la fréquentation, à travers la connaissance qu'on fait toujours davantage de nous-mêmes, mais aussi de notre interlocuteur, de celui que l'on cherche. On doit connaître son interlocuteur, on doit connaître Dieu, ses mœurs, pour qu'on puisse ajuster nos volontés, nos libertés. La prière comporte toutes ces réalités. Un dialogue qui peut être ponctué d'interférences à l'occasion. On peut, un peu comme dans des amitiés passées, par des périodes de chicanes, prendre des distances de temps en temps, puis on revient. Et tout ça fait partie de la prière comme une histoire, comme mon histoire. La prière a des crises, elle a des nuits, quand Dieu répond pas. Est-ce que ça dépend de son mutisme ou est-ce que ça dépend de moi, hein, que je ne suis pas capable d'entendre? C'est engageant, cette histoire, cette relation qui s'établit peu à peu entre moi et le Seigneur. Il y a une sorte d'apprivoisement qui doit se faire. La relation s'approfondit petit à petit. En ce sens, la prière coïncide avec notre devenir spirituel. C'est une autre façon de parler de notre devenir spirituel, de notre relation à Dieu. Partir pour toute une vie à la découverte d'un visage. Notre relation à Dieu est un peu à l'image de l'inculturation. Ça, c'est un mot qui a été créé nouvellement pour parler des gens qui entrent dans un nouveau pays et qui doivent apprendre la langue, accueillir les mœurs puis les coutumes qui sont différents des nôtres. La même chose quand on aborde, si on peut dire, le pays de Dieu ou la réalité de Dieu. Il faut s'inculturer. On n'a pas à coloniser Dieu, à amener Dieu à nos façons de faire. On a à découvrir ces façons. Et c'est là que la relation devient intéressante. Et c'est là que la relation entre moi et Dieu devient nourrissante. Elle m'interpelle, elle me transforme. Il y a une question d'inculturation. Il faut savoir subir le choc culturel de notre rencontre avec Dieu. Avoir l'audace, parce que c'est un choc culturel. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Ah, un peu comme quand on rencontre quelqu'un d'un autre pays puis qu'on essaie de le connaître. Même de notre propre pays, toute personne est un pays. Et on doit s'inculturer devant toute personne. La même chose au niveau de notre prière, s'inculturer à Dieu. Éviter les fusions puis les confusions. On peut fusionner avec Dieu. On peut essayer de manipuler avec Dieu. On peut fonctionner par complaisance avec Dieu. Ça, ce sont des formes immatures de relations qui se retrouvent dans notre prière. Qu'est-ce que je recherche dans ma prière? Est-ce que je recherche d'être bien? Est-ce que je recherche de combler mes besoins? Ou est-ce que je recherche d'entrer en relation avec l'autre, avec un grand A, avec le tout autre? Il y a un jeu de liberté qui s'exerce tout au long de la prière conçue comme la trajectoire de mon histoire. Accueil des différences, qui est le sommet de la maturité, à mon avis, de la personne humaine et de la personne spirituelle. Un dernier mot dans ce contexte, si nous voulons vraiment connaître la prière, notre vie spirituelle comme une immense prière, il faut regarder Jésus-Christ. Il est notre maître là-dedans. Jésus a réalisé à la perfection ce dialogue entre l'homme et Dieu, entre lui et son Père. C'est très intéressant. Il y a des choses étonnantes quand on parcourt la Bible et qu'on lit un peu ce qui constitue la bonne nouvelle. Je soumets à votre réflexion quelques-unes de ces découvertes au niveau de la prière de Jésus, des temps de prière de Jésus. On s'aperçoit dans les évangiles qu'il n'est jamais dit que Jésus a prié au temple. C'est jamais dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas prié au temple. Il a sûrement prié au temple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit Jésus prier partout ailleurs, comme s'il faisait éclater les lieux sacrés. Le temple, pour Jésus, c'est toute la création. Ça fait beaucoup de bien pour notre prière. Ce n'est pas une défense d'aller prier à l'église ou à la chapelle ou dans un coin de prière, mais c'est une invitation à faire éclater ces lieux privilégiés pour pouvoir et pour apprendre à être capable de prier partout. Les temps de prière de Jésus, les temps précis où Jésus se met en prière, c'est la deuxième remarque que l'on peut faire quand on lit les évangiles. On s'aperçoit que Jésus va prier formellement avant des actions de salut, avant le baptême, avant la multiplication des pains, avant le choix de ses apôtres, avant évidemment le mystère pascal, sa passion, hein, Jésus à l'agonie. De telle sorte que on a l'impression que la prière formelle, on voit Jésus qui s'enligne sur son Père, qui syntonise le Père, hein, pour reprendre l'image de la radio. La prière nous introduit dans une action. On communique avec Dieu, on s'oriente vers Dieu pour communier avec lui, pour entrer dans son action de salut. Une dernière remarque, relisez la vie de Jésus du début à la fin pour voir comment toute sa vie est une prière. Toute sa vie est communication et communion avec son Père. Comme disait Yvon Deschamps, c'est fatigant quelqu'un qui parle toujours de son Père. Le secret de la liberté, le secret de la qualité de vie de Jésus, c'est sa relation extraordinaire avec son Père. Partir pour toute une vie à la recherche d'un visage.
Vous venez d'entendre « Sous l'olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.